Je suis en compagnie de Claude Généreux, secrétaire trésorier national du SCFP. Bonjour Claude.
Bonjour Sébastien.
Alors aujourd'hui, pour notre quatrième entrevue pour le journal La Réplique, on va parler du grand enjeu des changements climatiques. Il semble qu'au Canada, puis en Amérique du Nord, même partout dans le monde, plusieurs demandent encore à être convaincus de l'urgence de l'enjeu. Alors pourquoi est-ce que l'objectif ambitieux dont on entend tellement parler de 2 degrés maximum de réchauffement mondial, pourquoi est-ce que c'est si important?
Il y a un grand consensus international à l'effet que le changement climatique qui a cours est causé par l'activité humaine. Ce consensus scientifique-là est à l'effet. Ça se retrouve, ça se regroupe autour d'un groupe dont l'acronyme est le GIECC, le groupe intergouvernemental d'études sur le changement climatique, qui a été récipiendaire d'un prix Nobel d'ailleurs de la paix il y a quelques années, qui avait mis sur la, comme on dit en bon français du Québec, mis sur la map, sur la conscience planétaire, le fait que nous étions la cause d'un réchauffement, puis d'un réchauffement trop grand qui s'emballerait. Mais ils nous ont donné des chiffres, ils nous ont donné de la science à ce sujet-là, pas juste de l'idéologie, de la science, avec 800 scientifiques dont les données de ces 800 scientifiques-là ont été étudiées par d'autres pairs qu'eux, d'autres scientifiques qu'eux, par 2500 autres scientifiques. Donc, il s'agit de 3 000 scientifiques d'une science bien pointue. Là, on n'y a pas des millions de scientifiques là, qui étudient cela encore, la paléontoclimatologie, par exemple. Mais on a ce consensus scientifique-là. J'insiste beaucoup pour parler de consensus scientifique parce que les pluies acides, là, voilà 20-30 ans, on nous disait, oh, les pluies acides, ceux qui étaient contre l'acceptation de la théorie, puis de la réalité que les pluies acides nuisaient à notre santé, nuisaient à l'environnement, puis on sait maintenant au climat en général, mais là, 25-30 ans, il y a des gens qui étaient sceptiques, qui nous disaient, oh, c'est pas toutes les études qui nous disent ça. Mais la science n'a jamais été une question d'unanimité, là. La science, on parle de consensus, ça avance, ça progresse. S'il y avait toujours unanimité, elle arrêterait de progresser, là. Mais on a donc un groupe international de scientifiques qui ont reconnu que notre activité collective, mondiale, depuis 150 ans, a fait élever les gaz carboniques, les gaz à effet de serre, qui font augmenter la température. Et la preuve tangible, c'est que les particules ont été, pendant 2000 ans, 2000 ans, on a pu retrouver et établir que la moyenne de ces gaz-là était en moyenne, là, je le répète souvent, parce que une place, ça peut être 300, une autre place, ça peut être 250, mais en moyenne, on avait à peu près 270 particules par million de parties dans l'air de ces gaz-là. Et à l'ère industrielle, depuis 150 ans, ça s'est mis à monter. Donc, stable pendant 2000 ans, là, ça se met à monter. De 270 parties, on a dépassé 350 parties rapidement. Et le dernier rapport de ce groupe-là, d'experts, en 2007, nous dit qu'on est maintenant en moyenne à peu près à 390 particules.
Donc, ça a monté en flèche après des milliers d'années de stabilité.
De stabilité, vous voyez, donc c'est exponentiel, là, de 270 parties à 390 parties. Donc, on a 120 parties de plus, si parce que la mesure de base, c'est 270. On a donc plus d'un tiers d'augmentation des gaz carboniques dans l'atmosphère, qui reste là de façon durable. Donc, ça change le climat. Mais ça le change d'une manière telle qu'on en perd le contrôle par cette présence de particules-là dans l'air. La température va dépasser un réchauffement de 2 degrés Celsius. Et là, ça va générer une série qui vont être pour nous des cataclysmes, mais une série de réactions dont on ne peut encore même pas toutes mesurer ce qu'elles vont produire comme effet. Mais c'est surtout que nous, les humains qui avons créé cela, on ne sera pas capable non plus de le contenir. Ça va ouvrir les portes littéralement du déluge qu'on ne serait plus capable de fermer. Mais là, effectivement, si je continue à parler de cela, je n'avais que parler de changement climatique, alors qu'on voulait parler aussi d'autres questions qui sont reliées à cela, qui sont, nous, justement, les activités politiques des humains par rapport à l'activité humaine sur les changements climatiques.
Mais justement, parlons-en. Un moment clé de ces activités politiques-là pour régler le problème des changements climatiques, c'était Copenhague en décembre 2009. Claude, tu étais sur place avec une délégation du SCFP. Quel bilan tu tires de l'événement? Qu'est-ce que tu as constaté?
C'est mitigé. On risquait de reculer s'il n'y avait pas de traité contraignant pour faire suite au traité de Rio de 1992, puis de Kyoto en 1997. On voulait obtenir un traité qui soit contraignant, avec des cibles contraignantes, que ce soit tangible. Arrêter de parler pour parler, puis commencer à agir. On voulait quelque chose de contraignant, mais on a quand même une entente. on a une entente. Et même dans le cadre du protocole de Kyoto, ça nous disait qu'au 1er février 2010, les pays signataires et non signataires devaient nous dire quelles étaient leurs cibles, finalement.
Mm-hmm. Ce qui est arrivé au Canada, donc, c'est le ministre Prentice qui s'est prononcé là-dessus. Là.
Voilà. Et donc, on est déjà dépassé, quoi qu'on en pense de Copenhague, en décembre, on est déjà dans l'après-Copenhague qui se joue. Le bras de fer a lieu maintenant. 1er février, on se parle ici, nous sommes en début février 2010, nous savons depuis quelques jours quelle sera la cible du gouvernement fédéral. Alors, le gouvernement fédéral joue au chat et la souris avec nous. Il s'est présenté à Copenhague quelques semaines avant, il nous disait « je vais arriver avec des cibles, je vais les identifier ». Il ne les avait pas identifiés. Rendu à Copenhague, il n'y en avait pas de cibles. Sortant de Copenhague, il nous dit « ben, 1er février, je devrais dévoiler mes cibles ». Alors, Jim Prentice, le représentant du gouvernement, le ministre fédéral de l'Environnement, nous déclare la fin de semaine du 1er février que ces cibles s'enligneront sur celles des États-Unis. Alors, on dit « ok, ça c'est des cibles, quelles sont-elles ?» Les cibles américaines ne sont pas encore déterminées. Et bien que le président Obama ait voulu établir des cibles pour lui-même et pour l'ensemble de l'Amérique, les États-Unis, il a scoltaillé avec un parlement, un congrès et un sénat. Et on sait ce que ça a donné sur la santé. Mais pour l'environnement, c'est encore pire. Là. On ne sait pas là, du tout ce que les États-Unis ils vont accoucher de quelque chose. Mais d'ailleurs, vont-ils accoucher? Le ministre fédéral de l'Environnement, Jim Prentice, de façon ahurissante, a attaqué le premier ministre du Québec, Jean Charest, parce que celui-ci, et je ne suis pas un admirateur de Jean Charest, bien plus s'en faut, mais lors d'un passage en Inde, a dévoilé des cibles contraignantes, notamment pour l'industrie automobile. Cibles contraignantes, d'ailleurs, qui s'enlignent sur 15 États américains présentement, dont l'État de la Californie, l'État new-yorkais, une trentaine d'États entre ces deux grands États-là. 15 États qui renferment la moitié du parc automobile américain. Donc, c'est pas marginal.
C'est des normes qui ressemblent à peu près à ce qui se fait en Europe en ce moment, ce qui voilà. est en train de se dessiner en Europe.
Ce qui se dessine en Europe aussi. Donc, tous les pays à économie développée là, sont en train d'avoir d'élaborer des normes assez homogènes. Rien de folichon pour Charest de vouloir s'enligner là-dessus. Il se fait attaquer par ce ministre-là de l'Environnement comme quoi c'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la sottise, pour le traduire littéralement en français, en bon français. Folie.
Trop de protection de l'environnement.
Trop de protection de l'environnement. Alors moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Le ministre de l'Environnement qui chicane un premier ministre provincial parce qu'il se préoccuperait de l'environnement. C'est le ministre de l'Environnement. Et il y a quelque chose qui ne va pas là.
Assez inusité. Là.
C'est assez inusité. Là, il n'y a pas d'attaque envers le Québec, du Québec envers une autre province, envers l'industrie automobile, envers les sables bitumineux de l'Alberta. C'est donc de l'idéologie et c'est orwellien d'entendre un ministre de l'Environnement nous dire qu'on veuille en faire trop. Je pensais qu'un ministre de l'Environnement était là pour nous tirer vers le haut, pour qu'on en fasse le plus possible, pas en faire le moins possible. Et là vient d'être dévoilé des priorités réelles du premier ministre Harper et de son gouvernement. Il faut en faire le moins possible sur l'environnement. Tantôt, on est passé de Copenhague à l'après-Copenhague, mais j'ai oublié de vous dire une chose importante. À Copenhague, nous étions, oui, le SRP était présent dans une délégation avec l'International des services publics qui regroupe l'ensemble des syndicats qui œuvrent dans des services publics à travers le monde. Nous étions présents aussi avec la Confédération syndicale internationale, mondiale. Nous étions en fait 400 délégués par nos syndicats présents à cette conférence-là. 400 délégués accrédités.
De partout au monde,
de tous les continents. Et ça, en soi, a été une donnée qui a jeté par terre plusieurs délégations officielles de gouvernement. Ils ne se rendaient pas compte à quel point les syndicats étaient une partie prenante de cette question-là avec les autres organisations non gouvernementales. Parce que nous sommes des citoyens et des citoyennes. On représente des citoyens et des citoyennes aussi. Ce n'est pas juste de travail, là. Il s'agit aussi d'économie. Il s'agit d'une conversion de l'économie. On a des positions là-dessus. Mais nos intérêts convergent avec les citoyens du monde. Puis on veut que cette terre-là continue à vivre. Puis que dans cette génération, il y a des jeunes encore qui soient bénis d'avoir une belle planète comme ça. Il y a d'autres sources d'énergie aussi qu'il faudra regarder si le 19e siècle était celui de la vapeur. Ça fait pas longtemps, ça, le 19e siècle. C'est celui de la vapeur et du charbon, 20e siècle, celui du pétrole. Il y a d'autres sources qui émergent, si au moins on peut réussir à réduire ralentir, stopper ce progrès-là de réchauffement climatique, bien, on fait une bonne chose pour nous-mêmes, comme travailleurs, mais comme nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes dans nos villes puis dans nos pays. C'est la chance que je nous souhaite. On ne peut que rencontrer le succès parce qu'il y en va de notre avenir.
On va y voir. Merci beaucoup, Claude.
Merci, à une prochaine.